Bienvenue à vous tous, bienvenue à vous toutes, de la part de Dieu qui nous rassemble et de Jésus-Christ qui nous aime et nous conduit. Réjouissons-nous de rendre ensemble un culte à notre Dieu. Je vous invite à vous lever. Dieu nous a créés et nous aide à vivre aujourd'hui. Reconnaissons-le et vivons en enfants de Dieu. C'est là notre joie et notre dignité. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Amen. Alors pour les gens qui viendraient pour la première fois ou une des premières fois, vous trouverez dans la première partie du livret de chants un petit livret qui donne la plupart des cantiques, ce qu'on appelle des spontanés. Bon. Et à la fin, vous trouverez normalement, là, il n'y en a pas, un petit où il y a les confessions de foi qu'on utilisera le moment venu. Alors je vous invite à chanter le premier qui s'appelle « Laisse-nous Seigneur entrer dans ta maison ».
Seigneur, entrer dans ta maison, laisse-nous venir chez toi. Aide-nous, Seigneur, entrer dans ta moisson, laisse-nous chanter avec toi.
Nous louons Dieu. Avec le psaume 18, en fait. Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite. Mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Lui qui m'a dégagé, mis au large, il m'a libéré, car il m'aime. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher, qu'il triomphe, le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires, il se montre fidèle à son envoyé. Béni sois-tu, Seigneur, nous chantons le cantique 34, le psaume 34. Les deux premières strophes, vous le trouverez à la page 58.
Prenez place. Il n'a pas l'air particulièrement connu, celui-là, où je me trompe. Voilà. Plaçons notre vie sous le regard de Dieu. Le pain marie l'homme, l'être humain et la nature.
L'être humain, en mangeant, devient pain, et le pain devient humain. Et l'homme, l'humain et la nature meurent. Seigneur, pardon d'avoir gâché, gaspillé, pollué ce que nous avait donné en responsabilité, et d'avoir oublié que par le pain, nous sommes frères et sœurs du monde. Le pain lie l'être humain et l'être humain. C'est comme cela. Manger son pain seul est désespérant. Le pain est fait pour être partagé avec tous. Seigneur, pardon d'avoir fait rassir ton pain, de l'avoir enfermé, de nous être desséchés dans notre solitude et d'avoir oublié que par le pain, nous sommes les frères et sœurs du monde. Le pain permet à l'être humain de rencontrer Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Cela n'avait rien d'évident. Mais le pain signifie la présence de celui qui est au-delà de toute présence. Seigneur, pardon d'avoir oublié ta présence au cœur du monde. Par ce pain partagé par Jésus, donne-nous l'histoire. Donne-nous à l'histoire. Pardon d'avoir oublié que par ce pain, nous sommes le corps de celui qui te dit Père. Amen. De tous mes maux, il me guérit. Cantique 12:04. À celui qui a soif, dit Dieu, je donnerai de l'eau de la source de vie, et je la donnerai gratuitement. Dans notre monde où tout s'achète et tout se vend, où l'homme s'étonne et suspecte lorsqu'il reçoit gratuitement, j'annonce aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ qui nous délivre de nos servitudes, de nos fatalités, de nos craintes, et nous appelle à une vie nouvelle. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter « Ô ma joie et mon espérance ». Libérés et pardonnés, écoutons ce que Dieu nous demande et nous donne la force de faire. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements, ne commets pas d'adultère, ne tue pas, ne vole pas, ne convoite pas, ceux-ci et tous les autres, se résument dans ce seul commandement, aime ton prochain comme toi-même. L'amour est donc le plein accomplissement de la loi. De ton esprit emplit nos êtres. Prenez place. Aujourd'hui, pour aujourd'hui, deux lectures qui ne sont pas les lectures du jour, mais les lectures d'un autre jour. Ceux d'aujourd'hui ne m'inspiraient pas grand-chose. Enfin, ils sont très importants, mais je ne voyais pas ce que j'allais pouvoir encore dire dessus. Donc, je les reprendrai une autre fois. Aujourd'hui, donc, de le livre de l'Exode, au chapitre 32 et dans le premier livre, dans la première épître pardon, à Timothée, au chapitre 1. Donc j'invite, je crois que c'est David d'abord. Voilà.
Alors, dans le livre de l'Exode, au chapitre 32, on commence au verset 7. Épisode qu'on appelle celui du veau d'or. Alors, le Seigneur dit à Moïse, « Descends tout de suite. En effet, ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte est tombé dans un grand péché. Très vite, ils ont quitté le chemin que je leur avais montré. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu. Ils se sont mis à genoux devant lui et lui ont offert des sacrifices. Et ensuite, ils ont dit, « Voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. » Et ils ont dit, « Voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. » Eh bien, je le vois, ce peuple est un peuple à la tête dure. Maintenant, laisse-moi faire. Je vais me mettre en colère et je le détruirai. Ensuite, je ferai naître de toi un grand peuple. Mais Moïse demande avec force au Seigneur, son Dieu, de calmer sa colère. Et il lui dit, « Tu as utilisé ta puissance grande et terrible pour faire sortir d'Égypte ton peuple, et maintenant tu veux te mettre en colère contre ce peuple. Pourquoi donc ? Si tu agis ainsi, les Égyptiens vont dire, « Le Seigneur est méchant. C'est pourquoi il a fait sortir les Israélites de notre pays. Il a voulu les tuer dans les montagnes et les faire disparaître de la terre. Seigneur, calme le feu de ta colère. Renonce à faire du mal à ce peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob. Tu leur as fait toi-même ce grand serment. Je rendrai vos enfants et les enfants de leurs enfants aussi nombreux que les étoiles du ciel. » Je leur donnerai le pays que j'ai promis, et ils le posséderont pour toujours. Alors, le Seigneur renonça au mal qu'il voulait faire à son peuple.
La deuxième lecture est donc la première épître de Timothée, les versets qui sont 12 à 17. Combat le beau combat au service de la foi, afin de vivre avec Dieu pour toujours. C'est pour cette vie qu'il t'a appelé. Tu as reconnu cela le jour où tu affirmais clairement ta foi devant beaucoup de témoins. Et maintenant, je te donne un ordre en présence de Dieu, qui donne la vie à toutes choses. Je le fais aussi en présence du Christ Jésus, qui a rendu un beau témoignage devant Ponce Pilate. Garde le commandement que tu as reçu, en restant sans tâche et sans défaut, jusqu'au jour où notre Seigneur Jésus-Christ paraîtra. C'est Dieu qui fera paraître le Christ au moment qu'il a fixé. Il est la source du bonheur et le seul maître de tout, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il est le seul qui ne meurt pas. Il habite une lumière que nous ne pouvons pas atteindre. Personne ne l'a vu, personne ne peut le voir. À lui, honneur et puissance pour toujours. Amen.
Et nous chantons « Souffle de Dieu vivant, d'Esprit créateur ».
Je vous en prie.
Je n'ai pas tout à fait reconnu le texte d'un Timothée 1, mais c'est peut-être moi, c'est une traduction qui m'a un peu perturbé peut-être, mais voilà, peu importe.
C'était 1 Timothée 6.
Ah oui, c'était 1 Timothée 6. Bah, alors, on partira avec 1 Timothée 6. Hein. Cela dit, avec 1 Timothée 1, il y a un point commun avec le texte d'Exode, du Livre d'Or. Le point commun, c'est que Dieu pardonne. Alors vous me direz, tu parles d'une nouvelle, on avait déjà entendu cette histoire quelques fois, c'est un peu le fondement de la prédication chrétienne, la grâce est le fondement du protestantisme. Alors c'est un thème essentiel, et je n'insisterai jamais suffisamment sur la conviction que Dieu accueille les pécheurs repentis, et que nul n'est trop coupable pour être, ou nul n'est assez coupable pour être exclu du pardon, s'il se tourne vers Dieu. Mais ce n'est pas là-dessus que j'aimerais aujourd'hui attirer votre attention. Ce que j'aimerais évoquer avec vous aujourd'hui, ce sont les conséquences qu'implique l'idée d'un Dieu qui pardonne. Parce que dans la Bible, Dieu ne se contente jamais de pardonner implicitement, automatiquement, simplement. Lorsque Dieu pardonne, cela lui coûte. Bien sûr, c'est une vision anthropomorphique, c'est-à-dire une vision qui prête à Dieu des caractéristiques humaines, une apparence humaine aussi, mais de même qu'à nous-mêmes, il coûte de pardonner. Et j'entends vraiment pardonner, pas juste passer sur une vexation mineure. Lorsqu'on doit pardonner quelque chose qui nous a réellement, vraiment blessé, pas juste égratigné, ce n'est pas si simple. Cela ne se fait pas sans effort. À force de prêcher et d'entendre prêcher la grâce, le Dieu d'amour et toutes ces choses, tout à fait vraies par ailleurs, hein, tout à fait, et même essentielles et incontournables de la foi chrétienne. Mais on en est peut-être venu à considérer que Dieu pardonne comme nous respirons, c'est-à-dire sans y penser, parce que c'est sa raison d'être. Et pourtant, ce n'est pas ce que raconte la Bible. Il faut dire aussi que contrairement à ceux qui, comme moi, avons été habitués à l'idée d'un Dieu qui pardonne, l'esprit de beaucoup de religieux, au sens large du terme, est choqué par l'idée de coupables qui s'en sortiraient à si bon compte. Dieu étant un Dieu de justice, il est tout à fait normal et bon que chacun reçoive selon son dû et ses mérites. Dans la Bible, d'ailleurs, l'idée est même émise par Dieu lui-même. Il punit ceux qui transgressent. Un Dieu sévère, jaloux en langage biblique, est une idée qui est présente tout au long de la Bible. Cette idée n'est pas remplacée par celle d'un Dieu qui pardonne, avec cette idée tentante, mais fausse, que le Nouveau Testament viendrait corriger la rigueur de l'Ancienne. Car cette seconde conception, celle du pardon, ne se superpose pas. Pardon, se superpose, elle ne remplace pas, elle se superpose à celle d'un Dieu qui condamne. C'est ce que laissent entendre les formules contradictoires comme celle qu'on trouve dans le Deutéronome, dans les 10 commandements. « Moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu à la passion jalouse qui fait rendre des comptes aux fils pour la faute des pères jusqu'à la troisième et quatrième génération de ceux qui me détestent, mais qui agit avec fidélité jusqu'à la millième génération envers ceux qui m'aiment et qui observent mes commandements. » Alors c'est contradictoire parce que c'est inapplicable. Dans les descendants des justes, il y a forcément des impies et inversement. Donc certains seraient à la fois punis et récompensés. Ce n'est pas impossible, notez, mais ce n'est pas très cohérent. On pourrait dire que le premier mouvement de Dieu serait de punir, mais qu'à la réflexion, il préfère pardonner. On remarquera toutefois que la fidélité est 250 fois plus forte que la rigueur. Évidemment, cette idée d'un Dieu qui s'emporte et qui finit par s'apaiser et par retrouver son calme est une vision totalement anthropomorphique. Mais c'est celle que nous donnent de nombreux textes bibliques. Pourquoi la Bible utilise-t-elle tellement de formules anthropomorphiques, alors que par d'autres, elle nous montre que Dieu, un Dieu dont les voies sont tellement éloignées des nôtres qu'il nous est difficile, voire impossible, de le comprendre. Justement, c'est un procédé paradoxal de la Bible, assez fabuleux, qui nous montre un Dieu qui est semblable à nous, pour nous démontrer justement qu'il nous est totalement dissemblable.
Alors je suis conscient que ce que je dis a l'air complètement dénué de sens, mais c'est pourtant en montrant un Dieu qui est soumis aux mêmes contraintes que nous, mais qui y répond de manière totalement différente, que nous pouvons découvrir que Dieu est Dieu, par cette proximité et cette distance. Toujours paradoxalement, lorsque la Bible nous parle de Dieu, elle nous parle toujours un peu de nous. Lorsque la Bible nous parle du pardon de Dieu, elle nous parle de notre propre pardon, de notre propre faute, de notre propre vie. À nous aussi, il en coûte de pardonner. Si vous pardonnez comme ça, sans y penser, c'est que l'offense n'était pas bien grande. C'est plus le signe d'une indifférence ou d'une forme d'intelligence. On se dit que garder rancune n'en vaut pas la peine, car le coût en énergie est bien supérieur au gain espéré ou à l'offense faite. C'est parfois aussi une façon de sortir la tête haute, lorsqu'on s'est un peu emporté et qu'on s'est laissé aller à quelques sentiments excessifs d'injustice, et dire « bon, ben, je te pardonne ». Laisse entendre que finalement, au fond, ce n'est pas si grave et que la réaction outrée, finalement, et que c'est une façon de reconnaître qu'on a eu tort, mais sans perdre la face, sans donner raison à l'autre. Mais voilà, vous vous en doutez, le sujet qui m'intéresse moi du moins, aujourd'hui est le pardon des choses graves. Que nous dit donc la Bible sur le pardon de Dieu, ou plutôt sur ce qui coûte à Dieu de pardonner ? Dans l'extrait du livre de l'Exode que nous venons d'entendre, le veau d'or, il y a un effet de style qui me fait sourire à chaque fois. On nous présente un peu Dieu et Moïse comme les parents qui se reprochent mutuellement le mauvais comportement de leur progéniture. C'est le Seigneur dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple, celui que tu as fait monter d'Égypte, s'est perverti. » Ça, c'est le verset. Et plus loin, Moïse cherche à apaiser le Seigneur son Dieu. Il dit, « Seigneur, pourquoi te mettre en colère contre ton peuple ?» alors que tu l'as fait sortir d'Égypte par une puissance et une main forte. Hein, on a connu, ton fils a fait ça, non, oui, mais c'est ton fils, bref, ou ta fille d'ailleurs. Hein, bon, il y a un effet un peu comique comme ça, mais ce n'est pas l'effet recherché, je présume. Dieu montre qu'il ne veut rien avoir à faire avec le péché, avec l'idolâtrie. Le peuple qu'il a trahi n'est plus son peuple, tout au plus est-il celui de Moïse. Effet totalement paradoxal, c'est Moïse qui va rappeler à Dieu ce qu'il a à faire, ou plus exactement ce qu'il est, un Dieu qui pardonne. Paradoxal, alors je pense que paradoxal sera le mot du jour, hein. Paradoxal est profondément choquant. On n'a pas l'habitude de dire que des personnes disent à Dieu ce qu'il doit faire, c'est plutôt l'inverse. Et lorsque ce texte est proposé comme lecture du jour, certains lectionnaires passent directement du verset 12 au verset 14. Alors, vous commencez à me connaître avec le mauvais esprit qui me caractérise, je vais directement au verset 13. Et le verset 13 dit ceci, parce que je me suis posé pourquoi ce verset, qu'est-ce que ce verset avait fait pour être ignoré. C'est le verset où Moïse dit à Dieu qu'il ne peut pas détruire son peuple parce que ça ferait ricaner les Égyptiens et que son image serait écornée. C'est un peu gênant, hein. Parce qu'on a l'impression que Moïse fait appel à la vanité de Dieu. Tu vas pas faire ça, qu'est-ce que vont penser les gens ? Alors, souvent on passe ce verset. Alors je suis conscient que je fais un peu un procès d'attention au rédacteur du lectionnaire, mais si vous avez une autre explication, je suis preneur. D'ailleurs, je ne le rejette pas d'ailleurs la prière. Nous faisons tous cela, nous passons par-dessus tous les passages qui viennent contredire notre vision de Dieu. Ou alors nous les tordons pour les rendre conformes. Dans notre imaginaire, Dieu est tout-puissant, omniscient, parfait. Par conséquent, il ne peut pas se tromper, il ne peut pas changer d'avis. Il sait ce qu'il fait. D'ailleurs, la Bible dit ça aussi, hein, comme nous venons de l'entendre de l'apôtre Paul. « Au roi de tous les temps, impérissable, invisible, seul Dieu, honneur et gloire à tout jamais. » Une des tentatives les plus courantes pour contrer ces passages où Dieu semble se raviser est de dire « Oui, mais Dieu voulait mettre Moïse à l'épreuve. » L'obliger à se montrer solidaire de son peuple. Dieu n'a jamais eu l'intention de détruire son peuple. Interprétation possible, mais rien dans le texte ne permet une telle interprétation. Finalement, ces textes ne disent pas grand-chose de Dieu, mais ils disent beaucoup de choses de nous, de notre conception de Dieu. Nous croyons défendre la grandeur de Dieu, alors que bien souvent, nous ne faisons que défendre nos propres préjugés sur lui, en résistant au texte biblique. Dieu est à la fois celui qui sait, qui peut, qui juge, et celui qui découvre qui reste impuissant et qui pardonne. Il est celui qui maudit et qui bénit. On pourrait dire, bon, on a compris, Dieu est paradoxal, oui, au-delà de mes limites de compréhension, alléluia. Béni soit le Seigneur. Et une telle réaction pourrait passer pour de la sagesse, de l'humilité et de la piété, voire de la haute spiritualité, alors qu'en fait, ce n'est que de la paresse. Nous sommes appelés à comprendre qui est Dieu, à le voir nous échapper sans cesse, même si, Dieu merci, il nous arrive des moments de grâce où nous le sentons à notre portée, instants qui ne peuvent être figés ou érigés en dogme et en certitude. Nous sommes appelés à être des chercheurs de Dieu. Peut-être que notre conclusion, à la fin, sera la même que celle des paresseux. C'est possible, mais au moins nous aurons cherché. Vous connaissez sans doute le bon mot prêté au général de Gaulle lors d'une visite au CNRS. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Et en termes de foi, c'est plutôt le contraire. Mais ce n'est pas mieux. Des gens qui ont trouvé, on en trouve, mais des gens qui cherchent, on en cherche. Dans le même sens, une phrase de Jacques Brel a marqué mon enfance, m'a marqué, est tirée d'une chanson qui s'appelle « L'enfance ». Et il dit ceci, « Mon père était un chercheur d'or, l'ennui, c'est qu'il en a trouvé. » Si pour nous, trouver signifie s'arrêter de chercher, mieux vaudrait pour nous ne jamais trouver. Notre Dieu est à la fois terrible et compatissant, parfait et capable de changer. Nous devons poursuivre notre quête de la compréhension de cette aporie, sans jamais renoncer, ni nous contenter de réponses faciles et confortables. Dieu est amour, mais cet amour lui coûte. Prendre conscience de cela, ne pas l'oublier, est la condition pour ne pas mépriser le don de sa grâce. Lorsque quelqu'un nous fait un cadeau qui ne lui a rien coûté, notre reconnaissance de sa générosité est relative. Oublier ce que la grâce coûte à Dieu, c'est banaliser le pardon reçu, c'est en faire peu de cas. Dieu pardonne alors que rien ne l'y oblige, il agit par pure grâce. Alors le Seigneur renonça au mal qu'il avait parlé de faire à son peuple, au roi de tous les temps, impérissable, invisible, seul Dieu, honneur et gloire à tout jamais. Amen.
Cantique 47, 14, « Prends ma main dans la tienne », page 743. Nous restons debout pour dire ensemble la confession numéro 4. Confession de foi. Je crois en Dieu qui a créé le monde pour que nous le cultivions et pour que nous en célébrions la bonté et la beauté. Il est la source de la vie. Je crois en Dieu qui a remis son pouvoir à Jésus le serviteur, mort et ressuscité, pour le pardon et la liberté de tous les êtres humains. Il est le prix de notre vie. Je crois en Dieu qui, par son Esprit, nous unit à son Fils pour que nous combattions le mal et construisions une juste paix dans l'espérance de son royaume. Il est le sens de notre vie. Mon seul abri, c'est toi. Prenez place. Dieu nous a donné Jésus-Christ. Plein de reconnaissance, apportons notre offrande et les signes de notre joie. Thank you.
Père, merci pour tous tes dons. Voici notre offrande, accorde-nous de la traduire dans la vie de notre Église en gestes qui nous parlent de toi. Amen. Quelques nouvelles et annonces.
Bonjour à chacun, merci d'être là, et à chacune, merci d'être là. Merci à Vincent pour ce culte, pour cette prédication. Merci à David et Nicolas qui vous ont accueillis. Et puis, je vais dire aussi merci d'avoir fait le temple beau. Et j'ai remarqué ce matin que le parvis était tout bien lavé et qu'il y avait des fleurs qui avaient été plantées le long de l'escalier. Voilà, je pense que c'est la mairie qui l'a fait, mais ça faisait longtemps que ça n'avait pas été fait et c'est beau.
C'est vraiment la copro plutôt. Je pense que c'est la copropriété parce qu'elle fait partie de la copropriété.
Oui, non, mais normalement c'est la mairie qui est chargée de mettre les fleurs à cet endroit. Voilà. Bon, cette semaine, pas beaucoup de choses. Mardi, il n'y a pas chorale, on fait relâche. Par contre, mercredi, il y a toujours la prière de 18 à 19 heures. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez partager la prière avec nous. Et sinon, dans le courrier de cette semaine, il y avait une publicité pour un film sur l'abbé Pierre. Voilà, il a été mis dans le hall. Voilà, Norbert, tu as quelque chose ?
Merci à l'organiste.
Merci Anne-Ruth, excuse-moi Anne-Ruth, tu étais marquée sur ma feuille et j'allais t'oublier.
Je voudrais aussi juste signaler et accueillir Frédéric Neboisguillot de Saint-Étienne qui est de passage parmi nous. Et puis il y a des personnes du Canada, donc bienvenue à eux pour le passage. Il y a d'autres peut-être qui viennent pour la première fois, mais je n'ai pas forcément repéré tout le monde. Alors. Nous allons maintenant partager le pain et le vin. Je vais dire vin tout le temps pour des raisons liturgiques et d'habitude, mais c'est du jus de raisin. Nous allons le partager. C'est Jésus-Christ qui nous invite, comme je le répéterai tout à l'heure. Donc, quelle que soit votre appartenance ecclésiale, vous êtes le bienvenu. Même, comme je le disais, même si vous avez l'impression de ne pas être digne, ce n'est pas une question de dignité, c'est une question de recevoir. J'aime beaucoup cette phrase qu'on prête à Calvin, je ne sais pas si elle est de lui ou pas, on prête aux riches, hein, vous connaissez l'expérience, qui disait « dire je suis trop pécheur pour prendre la scène », c'est un peu dire « je suis trop malade pour aller voir un médecin ». Vous voyez ? Donc voilà. Donc vous êtes le ou la bienvenue si vous confessez Jésus-Christ comme sauveur. Voilà. Alors je le dis aussi parce que ça ne se passe pas partout la même chose, mais rapidement, donc on se mettra en cercle. On passera avec vous devant du pain d'abord et avec le jus de raisin ensuite. L'idée est de le consommer dès réception et de reposer immédiatement le petit gobelet. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? C'est clair, pas de questions. Bien voilà, donc on voit.
Il fonctionne là ?
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te les présentons, tu en fais pour nous le pain de la vie et le vin du royaume éternel. Oui, Seigneur notre Dieu, il est bon de nous réjouir en ta présence pour le don de Jésus-Christ, ton Fils unique et bien-aimé. Il est venu nous apporter l'espérance dans laquelle l'Esprit nous invite à demeurer. Par sa mort, il a vaincu la mort, par sa résurrection, il nous ouvre toutes grandes les portes de la demeure, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du mal et de la mort, vivre dans ta paix parmi les champs de joie. C'est pourquoi, avec les anges, avec les croyants de tous les temps et de tous les lieux, nous t'acclamons en te disant « Saint, Saint est le Seigneur ».
Seigneur Jésus, par ton esprit. Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples et leur dit : prenez et mangez, ceci est mon corps, donné pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la donna à ses disciples et leur dit : buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandu pour la multitude. En vérité, je vous le déclare, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de Dieu. Faites ceci en mémoire de moi. Nous prions. Père, notre Père, donne-nous ton esprit d'amour à nous tous qui venons à cette table comme les invités et tes enfants, pour y communier à la vie, à la mort et à la résurrection de notre Sauveur. Avec tous ceux qui aiment Jésus et croient en toi, donne-nous la force et le courage et la volonté d'être des artisans de ta paix, des terrassiers de ton royaume, des ambassadeurs de ta réconciliation. Rassemble-nous en toi avec tous ceux, tous celles qui, pour qui Jésus, le Christ, a donné sa vie et que tu veux attirer à toi. Nous voici en ta présence avec le pain et le vin qu'il nous a laissés. Envoie-nous ton esprit pour qu'en recevant ce pain et ce vin, nous soyons en communion avec lui, avec toi, et avec toutes celles et tous ceux que tu veux unir à toi. Amen. Amis, venez, la table est prête et mise. Amis, venez, le pain est partagé et... le pain est partage et bonté. Amis, venez, la coupe est pleine de joie promise. Venez, venez tous, car tout est prêt. Voici le pain. Il est fruit de la terre et du travail des humains. Par le Saint-Esprit, il devient pour nous le rappel, la proclamation et le signe du sacrifice et de la présence du Seigneur Jésus qui a dit « Je suis le pain vivant venu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Voici le vin. Il est fruit de la terre et du travail des humains. Par le Saint-Esprit, il devient pour nous le rappel, la proclamation et le signe du sacrifice et la présence du Seigneur Jésus-Christ, qui a dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure attaché à moi porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Seigneur, tu as dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi dans ton Église. Pour que ta volonté soit faite, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous à l'unité parfaite en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, souviens-toi de nous dans ton règne, apprends-nous toi-même à prier. Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance de la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Thank you.
Dieu sauveur, notre Père, notre Mère, que l'amour dont tu nous as nourris à cette table comble nos cœurs et nous incite à partager ta tendresse avec tous nos frères et sœurs. Nous te prions. Dieu, trop souvent, tu nous surprends. Souvent, tu nous surprends. Tu ne nous dis pas ton nom, tu te fais connaître à nous dans les événements qui jalonnent notre route. Dieu, donne-nous le courage de prendre des risques pour tracer une route dans le désert quand nous ne voyons plus comment avancer. Donne-nous le courage de croire que tu es là et que tu nous précèdes quand nous n'osons plus faire un pas. Donne-nous le courage de croire que nous te trouverons là pour honorer ce que nous oserons faire, ce que nous oserons faire quand nous sommes prêts à prendre le risque d'apporter la première pierre à la route à construire. Et voici l'envoi, et nous terminerons après la bénédiction en chantant le dernier cantique, tu nous appelles à t'aimer. Cet envoi est l'œuvre d'une sœur, mais je n'ai pas noté ça. Voilà. Vis le jour d'aujourd'hui, Dieu te le donne, il est à toi. Vis-le en lui. Le jour de demain est à Dieu, il ne t'appartient pas. Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui, demain est à Dieu. Remets-le-lui. Le moment présent est une fête, est une frêle passerelle. Si tu la charges des regrets d'hier et de l'inquiétude de demain, la passerelle cède et tu perds pied. Le passé, Dieu le pardonne. L'avenir, Dieu te le donne. Vis le jour d'aujourd'hui en communion avec lui. Et s'il y a lieu de t'inquiéter pour un être bien-aimé, regarde-le dans la lumière du Christ ressuscité. Ce que j'ai, je te le donne, dans le nom du Dieu le Père qui nous renouvelle son amour. Ce que j'ai, je te le donne, dans le nom du Christ, le Fils de Dieu qui nous sauve et nous relève. Ce que j'ai, je te le donne, dans le nom de l'Esprit Saint qui fait jaillir en nous la reconnaissance et la joie. Et vous êtes dans la paix. Amen. Nous appelle à t'aimer.
Merci à vous.